Radio Kapi.
Le journal Jacques-Yves Molima Aouta.
Trouver un équilibre entre la conservation des forêts du bassin du Congo et la création d'emplois pour les jeunes, c'est ce qui ressort de la rencontre hier ici à Kinshasa entre F. Bazaïba, vice-premier ministre en charge de l'environnement, et John Kerry, envoyé spécial du chef de l'État américain pour le climat, en marge des travaux de la pré-COP 27 qui s'est ouvert hier ici à Kinshasa. Et puis, explosion d'une bombe artisanale hier lundi aux alentours de 19h heure locale à Butembo, dans le Nord Kivu. 6 personnes ont été blessées et des dégâts matériels enregistrés. Enfin, nous recevons dans cette édition du journal Gloria Binti Machimo, coordinatrice de l'organisation Ouze Bora, une association des personnes du troisième âge. Elle plaide pour la protection des droits des vieillards. Voilà tout pour le sommaire. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs et merci de nous recevoir chez vous pour cette édition du journal. Mais avant d'aller plus loin, le président Félix-Antoine Tshisekedi a nommé le lundi 3 septembre dans la soirée le général Christian Tshiwewe Songesha, chef d'état-major général de FRDC. L'ordonnance présidentielle le nommant a été lue à la télévision publique congolaise, la RTNC. Il remplace ainsi le général d'armée Célestin Mbala Moussessé, en place depuis juillet 2018 et reconduit à son poste le 21 mai 2019. Le chef de l'État congolais a, par une autre ordonnance, organisé le remplacement du général Christian Tshiwewe Songesha en nommant le général-major Ephraim Kabi Kiriza, commandant de la garde républicaine. Les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo se sont convenus à trouver un équilibre entre la conservation des forêts du bassin de Congo et la création d'emplois pour les jeunes. C'est ce qui ressort d'une séance de travail ce lundi 3 octobre ici à Kinshasa entre l'envoyé spécial du président américain pour le climat John Kerry et le vice-premier ministre de l'environnement et développement durable F. Bazaïba. Au cours de cette rencontre tenue en marge de l'ouverture de la COP 27, John Kerry a également ajouté qu'ils ont discuté sur le leadership mondial de la RDC en matière de la conservation de la nature. John Kerry est au micro de Paul Matendo.
Dans cette discussion, nous sommes tombés d'accord, nous sommes convenus sur la possibilité de faire un équilibre entre la possibilité de conserver la nature et en même temps la création d'emplois. La discussion est allée beaucoup plus dans un sens de conserver la réputation de la République démocratique du Congo comme étant un leader en matière de protection de l'environnement, et nous croyons que les efforts qui seront fournis par le groupe de travail vont aller dans ce sens-là. Dans le cadre de la préparation de pré-COP et aussi la rencontre de Sharm el-Sheikh, je voudrais féliciter la vice-première ministre Mme Bazaïba et le président de la République en cette matière.
Et puis, la vision minière à l'ère de la transition énergétique verte et de la numérisation, défis et opportunités. C'est le thème du deuxième forum africain pour l'exploitation minière lancé ce lundi à Addis Abeba en Éthiopie, en présence des représentants des États africains, mais aussi des partenaires techniques et financiers venus des différents continents. Représentant son pays à ses assises stratégiques sur l'avenir de l'humanité, le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kaungia, a partagé avec le reste du monde l'expérience congolaise sur le processus de création de la chaîne de valeur régionale de l'industrie des batteries électriques. Il a présenté la RDC comme la meilleure destination au monde pour l'industrie des batteries et des véhicules électriques. On écoute Julien Paluku Kaungia dans cet extrait proposé par Alain Irung.
Qu'est-ce que l'Afrique attend? Qu'est-ce que le monde attend? L'Afrique est un scandale géologique avec 9 des minéraux qui entrent dans la fabrication des batteries électriques. Mais jusque-là, nous organisons des réunions, mais on ne passe pas à la phase opérationnelle. Aujourd'hui, l'Europe est en train d'imaginer des solutions alternatives à nos minéraux. Pour dire, bon, comment on peut se passer de l'Afrique? Parce que l'expérience avec l'Ukraine montre que si on s'en tient à un seul pays, on peut se trouver à la suite d'une crise être bloqué. Et donc l'Europe est en train d'imaginer des stratégies, de voir comment elle peut nous contourner si nous ne prenons pas rapidement nos responsabilités. Voilà pourquoi la République démocratique du Congo, pour matérialiser ce qui avait été dit dans le DRC Africa Business Forum, a signé avec la Zambie un accord de coopération pour développer la première chaîne de valeur autour de l'industrie des batteries électriques. Mais pour y arriver, nous nous sommes dit, on ne peut pas nous lancer dans cette grande aventure si on ne renforce pas les capacités des pays africains.
Pendant ce temps ici au pays, les habitants de la commune d'Engaliema se plaignent de perturbations, voire du manque d'eau récurrent de la régie des eaux dans cette partie de la ville de Kinshasa. Un problème qui s'est encore aggravé pendant la saison sèche qui vient de se terminer. La régie des eaux de son côté rassure qu'une solution est en cours avant la fin de l'année. Sa nouvelle usine en construction à Bizazone sera opérationnelle. Des détails avec Priscille Kabouya.
Dans certaines parties, des coupures sont enregistrées tous les jours, tandis que dans d'autres, comme Binza Delvaux, vient de passer près d'un mois sans que rien d'intéressant ne coule des robinets. Les habitants disent souffrir de cette situation.
Nous sommes au quartier Punda, quartier Météo.
Nous sommes au quartier Punda, quartier Météo, Binza Delvaux. Le manque d'eau nous fait souffrir énormément. Heureusement que le forage nous aide. Nous sortons vers 3h, 4h pour avoir son tour d'épuiser de l'eau. Nous pouvons faire une semaine, voire même un mois, sans l'eau du robinet. L'eau est difficile.
Du côté de la régie des eaux, Eugène Sopi qui assume l'intérim du directeur provincial affirme que l'entreprise a connu de fuites importantes dans son réseau. Il assure toutefois que des travaux sont en cours pour remédier à cela.
Nous avions eu une grosse fuite à l'usine d'Engaliema. Nous avons fait pratiquement une journée et demie de travaux pour colmater la fuite d'Engaliema. Nous devons avouer que la quantité d'eau qui est véhiculée de notre station ne peut pas satisfaire à 100% tous les abonnés.
Eugène Sopi réitère aussi la promesse de la régie des eaux selon laquelle l'usine des mines en zone en construction avec ses 110 000 mètres cubes permettra de résoudre définitivement les problèmes d'accès à l'eau potable pour ses abonnés d'Engaliema.
Au Kassai Central, pendant ces temps, la nouvelle société civile congolaise appelle les autorités à s'impliquer pour sauver la voie ferrée qui relie Kananga à Mweka, voire Lubumbashi. Après une tête d'érosion qui a coupé la ligne au niveau de la gare de Benaleka dans le territoire de Demba, une autre s'est fait signaler à 3 km du lieu. Le coordonnateur territorial de la structure craint une crise en produits agricoles avec des locomotives qui ne peuvent pas atteindre facilement la ville de Kananga. Pour Marcel Massaka, l'état actuel de cette voie ferrée nécessite de grands travaux pour attaquer toutes les érosions qui sont sur la ligne. Il a dit à François Kadima.
C'est une tête d'érosion qui date de longtemps, et puis par rapport aux fréquences et menaces de la pluie, les choses les plus quotidiennes qui ont abattu dernièrement, et ils ont attaqué un peu cette tête d'érosion-là. C'est ainsi que ça a encore frôlé les chemins de fer. Il n'y a pas longtemps, lorsqu'une locomotive voulait traverser ça, peut-être créer un accident et s'inonder. C'est notre message très pathétique que nous lançons aux autorités, que ce soit au niveau provincial, au niveau national et aux certains partenaires techniques, c'est d'agir vite parce que s'ils n'agissent pas vite, il y a risque de connaître une rupture totale des provisionnements de notre province en produits de première nécessité, surtout des produits agricoles, et surtout que nous avons constaté une hausse des prix, des fois d'autres personnes passent nuit sans toutefois toucher quelque chose de la bouffe. C'est pourquoi nous demandons aux autorités d'agir vite pour quand même stopper toutes ces érosions qui menacent ce chemin de fer, c'est un grand chemin.
Sur place, quelques agents de la SNCC essayent de travailler manuellement pour dévier la voie de passage des locomotives. Nous l'avons dit au sommaire, mesdames et messieurs, à Butembo, 6 personnes blessées aux côtés des dégâts matériels, tel est le bilan de l'explosion d'une bombe artisanale hier lundi aux alentours des 19h, heure locale. L'incident a eu lieu dans une salle de cinéma à Vusenzera, dans le quartier Vutiondo, commune de Kimemi. Des témoins rapportent que l'engin a été déposé dans la salle par un inconnu. Les blessés ont été acheminés aux cliniques universitaires de l'UCG pour la prise en charge. Le commandant urbain de la police à Butembo, qui confirme la nouvelle, affirme que le dimanche, des inconnus ont placé 2 autres engins explosifs similaires à Vutaira, au quartier Kiala, dans la commune de Bulengera. Le commissaire supérieur principal, Paul Ngoma, appelle la population non seulement à la vigilance, mais également à la prudence. Elle doit également collaborer avec les services de sécurité en vue de démanteler les infiltrés des terroristes ADF dans la ville. Et puis, toujours à Butembo, 3 présumés bandits et un milicien Maïmaï avec son arme ont été présentés par la police ce même lundi. Le commandant urbain de la police nationale congolaise qui les a présentés affirme que ces Maïmaï figurent parmi les membres du groupe qui avait attaqué la base de la MONUSCO le 26 juillet dernier. Il a été appréhendé en train de sensibiliser et scarifier d'autres jeunes dans la ville. Le commissaire supérieur principal, Paul Ngoma, appelle la jeunesse de Butembo à intégrer plutôt l'armée que des groupes négatifs. Ces propos ont été recueillis par la presse de la police.
Il y a 3 voleurs à main armée qui sont vraiment criminels et puis il y a un élément Maïmaï. Kambale Bitunda Jano. Le 26 juillet, on a attaqué les installations de la MONUSCO on l'a même apaisé dans le groupe avec une lance. Curieusement, il a été surpris encore en train de tatouer des personnes. Immédiatement, on l'a arrêté. Dans son sac se trouvait même une cartouche de l'arme AK plus des fétiches que j'appelais communément des gris-gris pour tatouer les gens. Donc il est là, il reconnaît lui-même qu'il tatoue les gens. Il vient ici pour inciter au juge de Boutembo d'adhérer au groupe Mai Mai pour seulement troubler la quiétude de la ville de Boutembo. Alors qu'ici à Boutembo, nous cherchons des jeunes gens. Quand il y a recrutement dans l'armée régulière, dans nos forces loyalistes, on a besoin de jeunes gens pour défendre leur nation et non fait des tatouages en ville de Boutembo, recruter nos éléments dans le groupe Mai Mai, dans le but seulement de troubler encore la quiétude de la ville de Boutembo. Là, nous disons non.
Autre nouvelle, dans la province du Maniema, plus de 15 villages du territoire de Kabambare se sont vidés de leurs habitants et plusieurs blessés enregistrés du côté des populations civiles. Ce bilan est le résultat des combats entre le groupe dit des revendicants dirigés par Tchèque Kabbalah dans le territoire de Kabambare et Mandevou dans le territoire de Kasongo. Ces combats qui durent depuis plus de 3 jours maintenant ont été signalés dans les villages Kibenga, Mavyankuku et autres villages environnants. Les députés provinciaux de Kabambare qui déplorent la situation humanitaire des populations déplacées appelle à l'intervention urgente des autorités provinciales, nationales ainsi qu'aux ONG humanitaires afin de venir au secours de cette population en détresse. Le député provincial Thierry Badisungu est au micro de Florence Kizalunga.
Aussitôt informé, j'avais contacté directement le gouverneur ad intérim du Maniema qui m'avait dit qu'il était déjà au courant de cette situation-là et qu'il prenait déjà langue avec le chef de ces deux groupes en conflit. Mais ce qui est déplorable, c'est le fait qu'il y a déjà des décès des enfants. Vu alors l'ampleur de ces conflits, qui dirait ça déjà trop dirait, mais aussi et surtout les conditions humanitaires déplorables de la population de cette partie-là, parce qu'on enregistre déjà les décès comme je l'avais dit tantôt. J'exhorte les autorités, tant nationales que provinciales, compétentes à la matière, de tout mettre en œuvre et c'est en toute urgence pour arriver à rétablir définitivement la paix dans les territoires de Kabambare, tout en compatissant avec les familles ayant perdu leurs enfants dans la brousse. Je lance un cri d'alarme surtout aux ONG humanitaires de penser à toute urgence comment venir en rescousse cette population exposée à l'heure où je vous parle aux multiples maladies, car nous sommes dans une saison pluvieuse.
Autre nouvelle, mesdames et messieurs, l'église catholique en RDC, au milieu du village ou au cœur de la contestation, c'est le titre du rapport publié hier lundi par le groupe d'études sur le Congo GIEC et de son partenaire de recherche Ebouteli. Ce premier rapport de la série, Mukalenga wa Bantu, entendez le chef de tout le monde, sur les structures de mobilisation des citoyens politiques, met l'accent sur l'activisme politique de l'église catholique congolaise, concentré essentiellement aux droits politiques et sur ses propres défis de démocratie en interne. Mais sa détermination à ne mobiliser le plus souvent les fidèles que pour exiger la tenue des élections crédibles constitue une opportunité manquée, d'autant que la défaillance du système démocratique congolais ne tient pas seulement à la fraude électorale, affirme le rapport. Plus de précisions sur ces rapports avec vous, Alain Irung.
L'Église catholique a été le socle des mouvements de protestation au Congo depuis au moins 92. Une autorité morale et un réseau de mobilisation, analyse Jason Stearns, le directeur du GIEC. Même si tout le monde peut reconnaître l'activisme politique courageux de l'Église catholique congolaise, celle-ci n'a cependant pas mis une énergie similaire pour des questions non liées aux élections, à l'instar de celles relatives à la justice sociale. Nous soutenons également que la décentralisation de l'Église catholique en RDC fait partie de ses obstacles internes sur le plan démocratique. Elle ne lui permet pas toujours de faire émerger un point de vue commun et cohérent entre les évêques, notent les auteurs du rapport. Aussi faudrait-il ajouter la problématique de la rédévabilité au sein de l'Église, ses dirigeants n'étant pas élus par des paroissiens et ne rendant qu'exceptionnellement compte à ces derniers. Pour Jason Stearns, l'Église s'est concentrée de manière relativement étroite sur les élections, négligeant d'autres questions importantes et doit travailler davantage pour être plus transparente et rédévable à ses membres.
Quant au mouvement laïque, particulièrement le comité laïque de coordination, CLC, et le conseil de l'apostolat de laïque du Congo, CALCC, ils ont certes été incontournables pour les manifestations de rue. Ils doivent cependant recourir davantage aux mécanismes de démocratie directe en leur sein afin de faire participer de plus en plus les citoyens au processus des prises de décision. En réaction à ces rapports, Maître Hervé Diakessé, porte-parole du comité laïque laïque de coordination CLC estime que cette structure a déjà commencé à anticiper sur les questions de démocratie interne. Cependant, il pense que limiter l'action de l'Église catholique et de son laïcat aux questions d'élection et de démocratie est trop restrictif. Maître Hervé Diakessé a été joint par Alain Hirong.
Ce rapport présente une situation et il donne aussi une perception peut-être de la population aussi éventuellement certaines critiques qui peuvent être aisées à faire à l'Église catholique et au laïcat. La question de la démocratie interne est une question pertinente et que, par exemple pour le cas du CLC, on a déjà commencé à anticiper mais qui mérite effectivement des réponses concrètes pour ne pas donner l'impression que tout est régi par un groupe restreint. Mais limiter l'action de l'Église ou des laïcats catholiques politique, c'est juste une vue de l'esprit parce que je sois l'Église ou les laïcats, ils sont présents dans d'autres activités mais qui n'ont pas toujours eu la même exposition médiatique qu'on aurait pu le croire. Sans d'abord faire le porte-parole de l'Église catholique, il y a les structures pour se faire. Mais je trouve qu'on lui ferait là un mauvais procès parce que l'Église est déjà présente sur des questions d'éducation. Il y a les écoles, sur des questions de santé, il y a des hôpitaux, sur des questions de développement. Il y a même les œuvres diocésaines pour le développement communautaire. Donc en réalité, l'Église catholique pallie la carence de l'État ou carrément se substitue à l'État partout où il est défaillant.
Actualité internationale.
Au Tchad, ce lundi 3 octobre, les plus de 1400 participants au dialogue national inclusif ont entendu le rapport de la deuxième commission ad hoc chargée de faire l'évaluation de l'accord de paix signé le 8 août à Doha entre le gouvernement de transition et une quarantaine de mouvements politico-militaires. Même si des dizaines de ces rebelles se trouvent à N'Djamena, sa mise en application n'est encore qu'à ses débuts.
L'invité.
Nous recevons dans cette édition du journal Gloria Binti Machimo, coordinatrice de l'organisation Ouse Bora, une association des personnes du troisième âge. Elle plaide pour la protection des droits des vieillards. Elle s'entretient avec Jean Kassami. Suivez.
Maître Gloria Binti Machimo, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Ouse Bora, ça veut dire quoi? Et pourquoi votre implication au sein de cette association?
Vous aspirez à une bonne vieillesse, vieillir dans de bonnes conditions, vieillir avec espoir, quoi.
On peut dire que vous êtes parti d'un constat selon lequel les vieillards sont presque abandonnés et qu'il faudrait une structure pour leur accompagnement.
Vous savez, dans nos sociétés actuelles, monsieur le journaliste, les personnes âgées subissent beaucoup d'atrocités. Ils sont victimes de beaucoup de maltraitance. C'est ce qui nous a beaucoup poussé à chapeauter leur structure parce que c'était une structure qui existait depuis longtemps. Malheureusement, il manquait d'encadrement et nous avons dit qu'il fallait nous y impliquer davantage. Oui, le 1er octobre, c'est la journée internationale des personnes âgées. Nous avons fait une conférence débat qui a été animée par Maître Papi Kadiabika. Il y a des personnes âgées qui sont venues, même dans nos territoires, Minova, Nyangezi, dans toutes les communes, Kadutu, Ibanda et Bagira, parce que notre siège social, c'est ici à Bagira. Et le thème, c'était le rappel de rôle important que joue la femme âgée pour relever les défis locaux, mondiaux, avec résilience et courage.
Combien de structures avez-vous dans toute la province du Sud Kivu?
Dans toute la province, nous avons une structure à Mwenga, à Kabare, dans la plaine de la Ruzizi. Ici à Bukavu, nous avons des noyaux qui sont répartis dans chaque commune. Mais aussi, nous avons une autre structure qui n'est pas encore active dans Walungu. Au total, nous pouvons avoir 6 à 7 structures. Et le nombre, 1000 membres dans notre association.
Et comment vous parvenez à les assister?
Vous savez, il ne se passe un mois sans discuter de plan, sans qu'un vieillard puisse nous appeler pour exposer qu'elle est victime dans telle ou telle atrocité. Parce que nous n'avons pas encore de moyens, nous les orientons tant soit peu à comment revendiquer leurs droits, ou soit nous pouvons les orienter, soit avec d'autres structures qui ont assez de moyens. Nous les aidons comme ça, mais de nos propres fonds, nous n'avons pas de fonds, n'avons pas jusque-là de bailleurs de fonds, mais nous les faisons avec nos moyens de bord.
Vous n'intervenez que sur le plan juridique.
Ce n'est pas seulement juridiquement, assistance humanitaire. Des fois, nous faisons des plaidoyers auprès du gouvernement provincial. Quelquefois, on peut nous assister. Nous avons aussi des projets pour leur autonomisation. Nous faisons des plaidoyers auprès des institutions financières. Mais jusque-là, qui n'ont pas encore abouti. Vous voyez, comme ce sont des personnes du troisième âge, il y a une réticence de la part de certaines structures financières. Et cela fait aussi partie de la violation des droits des personnes âgées, qu'on dit que la personne âgée, elle, ne peut pas travailler. Qu'est-ce qu'elle va faire avec l'argent? Et pourtant aussi, elle a droit à l'autonomisation. Laisse-moi vous dire que la journée du 1er octobre, nous, en tant que la structure qui encadre les personnes du troisième âge, Zébora, nous avons fait cette journée comme un appel à l'action et à une opportunité visant à faire attendre la voix sur tout seul de femmes âgées et mettre en valeur leur résilience et leur contribution à la société, tout en promouvant les dialogues politiques, en renforçant la protection des droits humains des personnes âgées et reconnaître aussi leur contribution pour le développement durable.
À part ces cas-là que vous venez d'évoquer, en l'occurrence le fait que les donateurs ne veulent pas mettre la main à la poche pour aider financièrement les vieillards, quels sont les autres droits des personnes du troisième âge que vous pensez serait aussi violé et comment vous faites pour lutter contre ça?
Droit à la vie. Nous avons déjà enregistré 5 cas de personnes accusées de sorcières et qui sont brûlées vives, surtout dans le périphérique ici. Beaucoup de vieilles femmes sont traitées de sorcières. Et cela continue à être le cas toujours. Pas plus qu'hier, nous avons encore écouté une doléance d'une maman qui était accusée dans son quartier étant comme une sorcière. Il y a aussi le droit à la santé qui est violé. Il y a un édit qui a été voté dans notre assemblée provinciale ici. Mais ce qui nous manque, c'est l'applicabilité. Parce que là, nous avons énoncé les droits de personnes âgées, les droits à la santé, droits à l'assistance, droits à l'autonomisation, tous ces droits-là. Mais malheureusement, l'applicabilité cause problème dans notre province.
Maître Gloria Binti Machimo, nous vous disons merci.
Voilà, mesdames et messieurs, complètement terminée cette édition du journal, mise en onde par Mimi Kindou, coordonnée et supervisée par Alain Irung Mouchinch. Merci de nous avoir suivis.